Boucalade 100.9.
L'info locale et régionale.
Présentée par Sylvie Rosier.
Bunker et ferme bio. Comment les ultra-riches préparent l'avenir? Par Gaspard Dallance et Léa Gourius pour Reporter. Face à la crise climatique, les ultra-riches se préparent à la catastrophe. Le survivalisme est devenu l'ultime lubie des milliardaires qui planifient leur exode et tentent d'échapper au monde commun. Crise d'ailleurs qu'ils ont largement eux-mêmes contribué à provoquer. Ils se bâtissent des bunkers, s'achètent des îles privées et s'aménagent des existences de rêve. Steve Hoffman, le cofondateur du réseau social Reddit, le dit lui-même. Une bonne moitié de ses collègues milliardaires de la Silicon Valley ont acheté des biens immobiliers apocalyptiques dans le monde. Le dernier en date à avoir défrayé la chronique est le fondateur de Facebook, Mark Zuckerberg. Son bunker de luxe à Hawaï, baptisé Kolau Ranch, devrait coûter plus de 250 millions d'euros. L'abri de 464 mètres carrés, protégé par une porte blindée et un système de vidéosurveillance hors norme, est capable de se fournir lui-même en électricité, ainsi qu'en eau, grâce à une gigantesque citerne. Une ferme biologique de 27 hectares lui est associée pour pouvoir vivre en autarcie. Au bord du Pacifique, le milliardaire attend la fin du monde en écoutant le bruit des vagues. L'engouement des ultra-riches pour la Nouvelle-Zélande. Le milliardaire Julian Robertson, propriétaire d'un manoir surplombant le lac Waikapitu, le président de Fidelity National Financial Inc., Bill Foley, possède une propriété dans la région de Werapa. James Cameron, le réalisateur du Titanic, a acheté un immense manoir qui domine le lac Penui. Les ultra-riches rêvent d'être seuls et de se réfugier dans leur château. L'intellectuel Douglas Rushkoff analyse l'attrait des milliardaires pour l'effondrement. Il raconte, dans Le Guardian, sa rencontre lunaire avec 5 milliardaires technophiles qui lui expliquent leur plan pour faire face à l'événement, l'euphémisme qu'ils utilisent pour parler de la crise climatique. Puisqu'il n'est pour l'instant pas très sympathique de vivre dans l'espace, les ultra-riches passent de la planète B au plan B, à défaut de pouvoir coloniser Mars, Mercure ou la Lune. Ils s'assurent de posséder sur cette planète un luxueux refuge bunker résistant aux aléas climatiques. Après moi, le déluge.
Calade.
Ma radio.
L'info locale et régionale.
2024 est une année cruciale pour l'Union européenne sur les défis que devra relever l'UE et un grand rendez-vous démocratique qui déterminera l'orientation de l'Union européenne dans les 5 prochaines années. Question à François Boursier, docteur en histoire contemporaine et professeur émérite à l'Université catholique de Lyon et également conférencier.
Crucial parce que, pour deux raisons. D'abord parce que nous avons nos élections du Parlement européen au mois de juin 2024 et puis on sait très bien que l'élection américaine de novembre 2024 va peser très lourd, puisque si M. Trump était élu, on sait qu'il remettrait en cause les relations avec l'Union européenne, le soutien à l'Europe et à l'Ukraine face à la Russie, et peut-être même une remise en cause du traité de l'OTAN.
Avec une Russie qui ne serait pas mécontente de la chose.
Comme le disait Sylvie Kaufmann dans Le Monde, Benjamin Netanyahou et M. Poutine votent Trump.
Guerre économique, les États-Unis sans pitié, l'Europe malmenée et mal armée pour cette compétition où tous les coups sont permis.
C'est vrai que l'Union européenne, l'Europe en tant qu'Union européenne, a beaucoup de difficultés à parler d'une même voix. On l'a vu avec la crise au Proche-Orient où des voix discordantes se sont fait entendre. Difficulté aussi donc à avoir non seulement un point de vue commun, mais une vision commune de l'avenir de l'Union européenne. Il y a des débats important aujourd'hui sur la question de l'élargissement ou pas de l'Union, sur la réforme des institutions qui apparaît comme un enjeu essentiel, et puis la difficulté qu'il y a à faire naître un sentiment européen dans tous les pays qui composent l'Union.
Et on a même l'impression que ce serait presque le contraire. Les eurosceptiques sont bien là et toujours là.
Alors ça c'est sans doute une des menaces importantes qui pèsent sur l'avenir de l'Union, c'est qu'on voit monter dans toute l'Europe des partis populistes de droite nationale et d'extrême droite qui ont pour ligne de mire de la remise en cause de l'Union. Alors tous disent nous sommes d'accord favorables à l'Union l'Union européenne. Mais en fait, quand on voit les critiques qu'ils émettent sur l'Union, leur projet est bien de remettre en cause, voire détruire, ou en tout cas empêcher l'Union européenne de fonctionner et de relever les défis qui sont les siens.
La France n'est pas exempt avec une sympathie pour le Rassemblement national, oui, pour les prochaines élections, peut-être.
On voit bien, en tout cas, bon, ce que nous disent les sondages aujourd'hui, c'est un Rassemblement national à sans doute 30%, Reconquête qui serait même à 8%, ce qui ferait quasiment 40% pour l'extrême droite anti-européenne. C'est une vraie préoccupation.
Le président Emmanuel Macron, dans un discours récent au Forum mondial de Davos, appelle l'Europe à investir dans son avenir et à plaider pour une coopération renforcée pour approfondir l'union des marchés de capitaux.
Voilà, c'est le grand problème que nous avons, nous, aujourd'hui, les Européens, c'est que si nous ne voulons pas être déclassés sur le plan économique, sur le plan technologique, par rapport à ce que sont nos concurrents...
Les États-Unis et la Chine.
Les États-Unis, la Chine, puis demain, potentiellement, l'Inde, certains pays asiatiques, et après, demain, des États africains. Il y a des enjeux considérable en matière d'investissement technologique. Et en même temps, le paradoxe ultime, c'est que tout ça doit se faire dans le cadre d'une transition écologique dont on sait qu'elle va coûter très cher. Et on a bien vu que dans le débat sur le pacte de stabilité, les Allemands qui ont finalement imposé leur vision refusent d'ouvrir des possibilités d'investissement et donc d'endettement de l'Union européenne. À Davos, le chef de l'État a appelé l'Union européenne à s'endetter pour relever justement le défi de la transition écologique et puis le défi d'une défense européenne. Il n'est pas entendu pour le moment quand on voit la décision qui a été prise sur pression de l'Allemagne concernant l'avenir du pacte de stabilité.
Oui, Emmanuel Macron a même dit une armée pour 2024.
Voilà, une armée pour 2024. Il faut des moyens et pour ça, il faut... L'Union européenne a l'air insolide. Elle peut lancer des plans d'endettement. Elle l'a fait pour le Covid. 750 milliards d'euros qui ont été engagés par l'Union européenne pour aider les pays à faire face à l'épidémie de Covid-19 et aux conséquences économiques de cette épidémie. J'ai presque envie de dire, quand on voit le niveau d'endettement des États-Unis d'Amérique, on peut estimer que l'Union européenne pourrait engager largement un plan de 1000, pour ne pas dire 2000 milliards d'euros, ne serait-ce que pour la transition écologique. Et là, on relèverait les défis plus facilement.
Le 9 juin, les citoyennes et citoyens des États membres de l'Union européenne sont appelés aux urnes pour élire les députés qui siégeront au Parlement européen pour les 5 années à venir. L'enjeu est de taille, car le Parlement donne à l'Union européenne une assise démocratique, participe à l'adoption des actes législatifs et vote son budget. Son action permet donc de répondre aux crises du moment et contribue ainsi à la construction d'un avenir durable. Et tout de suite, la page sportive avec Eddy Bernard.
Calade Sport. Les résultats sportifs du Beaujolais Val-de-Saône.
Calade.
Vendredi 19 janvier, sur la pelouse de Cholet, le football club Villefranche-Beaujolais ne parvient pas à trouver le chemin des filets malgré une seconde période de domination et se contente du point du match nul et vierge, 0-0. De son côté, le Gol FC a vu son déplacement prévu au stade Boer de Saint-Ouen face au Red Star, leader du championnat national 1, reporté en raison des conditions climatiques. Seules 2 des 9 rencontres de la 18e journée ont donc pu se dérouler. Les Tigres du FCVB sont provisoirement 7e du classement, les Chasselois toujours premier relégable. Pour les mêmes raisons, le CS Villefranche Rugby a vu son déplacement à Courbevoie dans le cadre du championnat de France de Fédéral 1, reporté au 7 avril prochain. En revanche, en Fédéral 3, le RC Belleville, qui se déplaçait à Sallanches, en Haute-Savoie, dimanche 21 janvier, est tombé sur un os, le Faucigny Sallanches Cluse Rugby, 8e du classement avant la 11e journée. Il s'incline 20-14 et se voit rejoint par Couche et Bellegarde à la 2e place du classement, derrière l'Aulnay. Beaujolais Basket poursuit l'aventure en trophée Coupe de France en écartant à Quincier samedi 20 janvier le voisin de Saint-Priest avec qui il évolue en championnat national 2. Victoire un peu poussive des Bleus, pourtant nettement favoris à domicile devant la Lanterne Rouge en 16e de finale, 89-74. Également en Coupe de France fédérale, cette fois, c'est déjà fini pour l'entente beaujolaise qui chute à Bourg-de-Péage samedi 20 janvier en 32e de finale. Après 20 bonnes premières minutes, les Caladois sont rejoints par les Ardéchois de Guirand Grange qui évoluent eux aussi en championnat national 2. Et malgré une dernière égalité à une minute de la sirène, ils s'inclinent sur le fil 31-28. Les féminines de Saint-Julien, de Nice-Glaizé, recevaient de leur côté le Bouillargue de Nîmes Métropole samedi pour le compte de la 14e journée et concèdent aux avant-dernières le match nul, 30 partout. Après une entame ratée, les Violettes avaient pourtant recollé et même obtenu deux buts d'avance avant un money time plutôt crispant qui renvoyait les deux équipes dos à dos. Les Violettes sont 7e du championnat national 2.
L'info locale et régionale, c'est tous les jours sur le 100.9 et radio-calade.fr.
Calade, ma radio.